Bonjour et bienvenue sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade. Bonjour Élie et Alexandre. Alors on est aujourd'hui à Sommières où il y a eu une réunion Pasto-Garrigues avec tout un tas d'éleveurs des Garrigues sur les questions d'installation de nouveaux éleveurs sur ces zones de Garrigues. Alors qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet ?
Alors bonjour, moi je m'appelle Élie Chemel, je suis en licence professionnelle gestion agricole des espaces naturels ruraux à l'Institut Supagro de Florac. Alors on travaille ici à Sommières avec le collectif des Garrigues dans le cadre de notre projet tutoré. Donc le projet tutoré, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet où il y a une demande qui émerge d'un professionnel qui va se diriger du coup vers une structure d'enseignement pour que des étudiants réalisent ce projet. Donc nous, on est au sein du projet Pasto-Garrigues, on a été intégré à ce projet, et notre travail consistait à réaliser une enquête auprès des éleveurs qui se sont installés en Auvergne-Viande dans le paysage des Garrigues gardoises et héroltaises.
Donc du coup, on a d'abord une liste d'enquêtés à aller voir par le collectif des Garrigues. On a spécifié, grâce aux techniciens, les exploitations qui nous intéressaient, techniciens agricoles. Donc on a ensuite réalisé 11 enquêtes auprès des éleveurs, qu'on a ensuite essayé de synthétiser pour, lors de la réunion d'aujourd'hui, donner vraiment un contenu au niveau des leviers et des freins à l'installation en Garrigues.
Alors c'était des questions qui s'intéressaient principalement à des éleveurs qui étaient en installation et par rapport aux difficultés qu'ils ont rencontrées lors de cette installation. Ce qui a émergé du coup de ces enquêtes, c'est qu'il y a eu plusieurs sources de difficultés, des difficultés liées au foncier, des difficultés liées à la physionomie naturelle des Garrigues. Mais on tournait vraiment sur l'aspect difficulté et sur à quoi ressemble une installation dans un paysage tel que celui des Garrigues.
Bah, c'est déjà des exploitants qu'on a contactés par téléphone, donc du coup on savait qu'ils étaient prêts à nous accueillir, mais on a eu presque aucun refus. C'était surtout des très bons accueils. Ils étaient contents de voir que quelqu'un s'intéressait au pastoralisme dans les Garrigues.
Alors faut savoir qu'on est 4 dans ce groupe. On s'est réparti tout simplement 2 personnes du groupe qui ont été sur le territoire du département de l'Hérault et une autre partie du groupe qui était dans le département du Gard. Ça a été équitablement réparti. Non, il y avait plus d'éleveurs dans le Gard, effectivement. Et la majorité concernant ma partie, moi j'étais du côté de Montpellier, du coup dans l'Hérault, la majeure partie se trouvait vraiment dans le sud du département, dans le sud-est même, si je puis me permettre, dans le sud-est du département. Et comparé par rapport au Gard, du coup.
Pour le Gard, nous on avait parti principalement dans l'ouest du Gard. On avait un exploitant qui était plutôt dans l'est, mais principalement dans l'ouest.
Par rapport à l'âge, c'était majoritairement des jeunes éleveurs, mis à part une personne qui a été en reconversion professionnelle, qui a du coup 50 ans. Après, par rapport au profil de là où arrivent les personnes, on a plusieurs types de profils. On a des gens qui reprennent l'exploitation des parents, des gens qui arrivent de l'enseignement agricole et qui se sont installés dans une zone qu'ils ne connaissaient pas. D'autres personnes qui n'étaient pas dans ce milieu, qui étaient dans une autre profession et qui sont installées pour pouvoir changer. Mais vraiment, ce qui les liait vraiment, c'était la découverte d'une agriculture dans ce milieu-là, quoi.
Et donc pour les Hauts, on a des exploitants qui ont une vingtaine ou une trentaine d'années. Ils sont beaucoup non issus du milieu agricole, donc qui viennent s'installer sans formation, avec des plutôt petits troupeaux, 100, 200, 300 brebis, donc race plutôt raïole, rouge, cosnarde. Ensuite, ils ont souvent gardé une activité à côté pour continuer à travailler en même temps que leurs troupeaux, pour pouvoir avoir une activité et pour vivre comme décemment.
Bye.
explorons ensemble quelques extraits de l'enquête menée par les étudiants de licence de Supagroflorac auprès des éleveurs de moutons récemment installés en zone de garrigue. Qui s'installe ? Le profil type rencontré lors des déplacements apparaît comme un individu jeune, mais non sans un passé professionnel, issu d'une formation et d'un milieu non agricole. Il n'est pas originaire du territoire où il s'installe et démarre son activité avec de maigres moyens. Ceci constitue un profil général et concerne une majorité des installations. Cependant, toutes sortes de profils existent avec leurs propres atouts et contraintes. On peut quand même noter comme point commun à tous une volonté d'acier. Question. Pourquoi êtes-vous venu vous installer dans cette commune ? Les enquêtes ont donc été réalisées au sein du territoire des Gardoises et Roltaises. Les communes occupées par les éleveurs rencontrés sont des petites communes dont la population ne dépasse jamais 6000 habitants. En revanche, la majeure partie des sièges d'exploitation se situe en proximité directe d'une grande ville. En effet, la quasi-totalité des exploitations héroltaises est voisine avec Montpellier. Cependant, on observe le phénomène inverse dans le Gard. Les exploitations sont relativement éloignées de la ville de Nîmes. On peut donc d'ores et déjà constater une différence en termes d'attractivité des grands pôles urbains d'un département à l'autre. La proximité avec une grande ville n'est donc pas une condition sine qua non à l'installation dans le territoire des Garrigues. Question. Présentez-nous votre activité principale. L'activité principale de toutes les installations étudiées est l'élevage d'ovins, exploités pour leur viande. Les races rencontrées sont essentiellement des rouges du Roussillon, cossenardes des Garrigues, rayoles et mérinos, races rustiques et adaptées aux caractéristiques du territoire. Il semble évident que les Garrigues soient un milieu particulier pour ne pas dire rude et toutes les races n'y ont pas leur place. Ceci est entendu par l'ensemble des éleveurs et le choix des races n'est donc pas un problème. Le cheptel est en moyenne de 200 mères, pour un minimum de 85 brebis et un maximum de 450. La taille du cheptel dépend des ressources et des capacités de l'éleveur, sans oublier de ses objectifs. La situation économique d'une exploitation ne semble pas dépendre directement de la taille du cheptel. Question. Quels sont vos débouchés ? Il y a peu d'agriculture biologique, mais on constate que beaucoup d'exploitations n'ont pas de label, quel qu'il soit. En effet, pour eux, un label représente dans certains cas plus de contraintes que d'avantages. Le label est un des points principaux en sa défaveur. De plus, la commercialisation se fait en grande partie localement, en vente directe, avec une demande dépassant l'offre. Ni la valorisation, ni la commercialisation ne sont véritablement des freins à l'installation. Question. De quel type de bâtiment disposez-vous ? Où habitez-vous ? Les bergeries sont souvent absentes ou sommaires, surtout pendant les premières années d'exploitation. Les bergeries tunnels de type serre font parfois leur apparition dans les années qui suivent l'installation. Nous avons noté une difficulté à obtenir des permis de construire causée entre autres par l'isolement de l'exploitation et la difficulté à la raccorder au réseau électrique ou aux canalisations. L'absence de bergerie est préjudiciable en cas de mauvais temps, surtout pour la période d'agnelage et les semaines suivantes. En effet, pendant cette période, un bâtiment permet de mieux nourrir les animaux, de les protéger des intempéries et d'apporter une surveillance accrue. Cela permet donc de limiter la mortalité des agneaux. L'habitation du berger est parfois éloignée, rarement proche du troupeau. Cela a pour conséquence des pertes d'argent, de temps et d'efficacité dans le travail. En général, car il n'accède pas avant quelques années, voire jamais un permis de construire, les bergers ayant la volonté d'habiter proche du troupeau ont principalement des habitations précaires. Question. Comment caractérisez-vous vos surfaces ? Les surfaces de foncier pâturé sont difficilement quantifiables, car bien souvent non contractualisées. Celles-ci sont souvent importantes, de quelques centaines à quelques milliers d'hectares sont parfois disponibles. Néanmoins, la fermeture des milieux est un facteur limitant. La pénétrabilité des garrigues par le troupeau est très variable selon le type de végétation. Certaines sont à un état boisé, plus développé, empêchant le passage des brebis dans ces zones.
La présence de milieux plus productifs, prairies permanentes ou temporaires, pendant l'agnelage se révèle intéressante, voire indispensable pour réaliser un bon agnelage. Les garrigues offrant une ressource alimentaire insuffisante par rapport aux forts besoins physiologiques des animaux à cette période. La présence sur l'exploitation de milieux à forte valeur fourragère est un atout pour l'élevage sur ce territoire. Les anciennes cultures en friche, les vignes et les zones intermédiaires sont aussi des zones utilisées par les éleveurs pour varier la ressource pâturée. On peut donc noter que le pastoralisme dans les garrigues est une activité qui peut être liée aux autres usages du territoire. La recherche du foncier se fait essentiellement par voie orale, directement sur le terrain. On remarque une certaine réticence des propriétaires à contractualiser. Très peu de contrats garantissent une réelle sécurité aux éleveurs. Des contrats écrits de type commoda sont récurrents. Ce sont les contrats écrits les moins contraignants. Ils permettent aux propriétaires de récupérer l'usage de ces terres au bout d'un an. Question. Avez-vous perçu des aides lors de votre installation ? Une grande partie des enquêtés se sont installés hors cadre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la SMI, surface minimum d'installation, nécessaire pour toucher les aides et obtenir le soutien des instances publiques. Ils n'ont aussi pour la plupart aucune formation agricole, ni le niveau d'études nécessaire pour toucher les aides, entre autres les aides JA, jeunes agriculteurs. La première année, pour les éleveurs touchant des aides, c'est uniquement des aides DPB, droit paiement de base. Lorsqu'ils ont réussi à fixer du foncier. Ce sont donc principalement des installations sans aide financière, malgré quelques cas isolés, financement participatif, appel à souscription, etc. Et les deux éleveurs enquêtants touchant les aides JA. Mais l'aide financière n'est pas la seule à être envisageable. En effet, certaines collectivités mettent à disposition des terrains, aident les exploitants à la recherche de propriétaires fonciers et sensibilisent à la signature des contrats écrits. Une aide extérieure est souvent constatée les premières années, qu'elle soit familiale, d'un ou une collègue éleveur ou d'amis. Des associations ou d'autres structures de soutien agricole telles que Terre Vivante, Grappe 3, Coup de Pouce peuvent apporter de l'aide sur les aspects administratifs, techniques et financiers. Bien que non présents à l'installation, des partenariats et soutiens avec la Chambre d'agriculture se nouent au fil du temps lorsque l'activité se concrétise. En effet, certains éleveurs prennent place sur le territoire avec un troupeau sans siège d'exploitation. Nous avons considéré ce type d'élevage comme des élevages fantômes, car ils n'apparaissent pas aux yeux des institutions techniques agricoles. Question. Avez-vous des activités secondaires vous apportant un complément de revenus ? Environ les deux tiers des éleveurs ont une activité secondaire. La nature de ces activités reste agricole, avec d'autres types d'élevages tels que avicole et porcin, des emplois saisonniers, mais aussi des bergers salariés en estive. Nombre d'entre eux touchent aussi le chômage durant la ou les premières années d'installation. Le revenu du conjoint ou de la conjointe est souvent nécessaire pour pallier au manque de revenus les premières années. L'absence d'une activité complémentaire s'explique, soit par une volonté de l'éleveur de se dégager du temps, soit par la reprise d'une exploitation viable. Quels sont les handicaps naturels liés aux garrigues ? Les handicaps naturels sont essentiellement la sécheresse estivale, le manque d'eau et la fermeture du milieu rendant les surfaces inaccessibles. Malgré tous ces handicaps, une grande partie du territoire n'est pas concernée par l'ICHN, indemnité compensatoire du handicap naturel, qui pourrait être une aide précieuse pour les éleveurs. La dynamique végétale, forte, sur les plateaux de garrigues, oblige à mettre en œuvre du débroussaillage mécanique. Le pâturage à lui seul ne suffit pas à nourrir le milieu. Cependant, un impact significatif peut être observé sur les parcs de nuit ou des parcs relativement réduits qui permettent une pression de pâturage plus intense. Question. Comment se déroule la saison estivale ? Lors des enquêtes, nous avons constaté que la période estivale est gérée différemment d'un éleveur à l'autre. Il est à noter que la majorité des enquêtés partent avec leurs troupeaux en Lozère, sur le Mont-Aigoual. Pour la minorité qui ne part pas, cette sédentarisation estivale est due à des problèmes d'ordre financier ou technique. Ceux-ci doivent s'adapter pour pouvoir passer la saison chaude sans problème. Pâturage de nuit ou apport de foin sont les solutions adoptées par les éleveurs. L'été est une saison rude pour les éleveurs et leurs troupeaux qui restent dans les garrigues. les faibles précipitations, le manque de ressources fourragères et les fortes températures sont autant de facteurs à surmonter. Question, jugez-vous votre exploitation comme viable? Comment voyez-vous dans 10 ans? La perception des DPB, droits à paiement de base, est observée chez la plupart des éleveurs, ce qui constitue une aide non négligeable à l'installation et qui permet aux éleveurs de respirer un peu d'un point de vue financier, d'après un des inquiétés. L'ICHN, indemnité compensatoire aux handicaps naturels, pourrait être très intéressante, mais hélas, les garrigues ne sont pas décrites comme une zone à handicap naturel. En effet, seules le sont les zones de montagne, moyenne montagne et piémont. Seuls les éleveurs situés près du massif du Bouquet peuvent prétendre à l'ICHN, soit 2 éleveurs sur les 11 enquêtés. Du fait de leur passé et de leur situation, peu d'éleveurs reçoivent les aides JA, jeunes agriculteurs. Certains dépendent d'apports financiers extérieurs non durables, par exemple sous la forme d'indemnités chômage. On peut donc noter que la plupart des installations ne sont pas autonomes et donc peu viables. Beaucoup d'entre eux ont confié qu'une activité complémentaire est nécessaire les premières années pour pouvoir assurer des revenus et combler de manière plus conséquente les annuités. On peut donc déplorer une forte dépendance des aides PAC, politique agricole commune, via les DPB, dont la plupart des exploitations visitées ont une certaine difficulté à dégager un revenu les premières années de l'installation. Concernant leurs projets d'avenir, certains désirent augmenter le cheptel. D'autres vivent au jour le jour et ne se projettent pas. Question. Avez-vous eu des désillusions? Certains n'ont eu aucune désillusion, soit car ils savaient à quoi s'attendre, soit parce qu'ils ne sont pas installés depuis assez longtemps pour avoir du recul. Mais pour ceux ayant eu des désillusions, l'aspect surcharge et souci administratif revient à plusieurs reprises, permis de construire et autres, ainsi que les problèmes avec Pôle emploi. L'aspect intégration avec la population revient assez régulièrement. Pour le reste, ce sont des désillusions propres à chacun, qui sont apparues avec des difficultés qu'ils ont rencontrées. Question. Quelles sont vos difficultés principales? Chaque exploitation a son installation et durant les années qui marquent le début de son activité connaît des difficultés. Une hiérarchisation de celle-ci pour l'ensemble des exploitations paraît difficile. En effet, chaque exploitation est un cas particulier car dans une situation unique. De ce fait, chaque éleveur a ses difficultés propres. Cela étant dit, on constate que les plus grandes difficultés, c'est-à-dire celles qui affectent le plus l'installation et son bon fonctionnement présent et futur, sont liées aux fonciers bâtis et non bâtis, recherche, acquisition de terres et ou de contrats, construction de bâtiments, etc. Les handicaps naturels tels que le manque d'eau, la chaleur estivale et la végétation parfois impénétrable font partie des difficultés inhérentes à ce territoire. Dernière question, quels sont les atouts de votre exploitation? Chaque éleveur ayant une situation différente, chacun a ses contraintes et ses atouts. Dans le cas présent, un atout revient à plusieurs reprises. C'est l'expérience acquise dans le milieu agricole avant l'installation, en tant que berger salarié par exemple. On retrouve aussi régulièrement l'aide d'acteurs, voisins, éleveurs, associations et le soutien des collectivités du territoire. En effet, le fait d'avoir une personne, une structure, une ressource sur laquelle s'appuyer en cas de problème est une vraie force pour ces éleveurs, souvent sans formation agricole. Certains d'entre eux ont comme atout d'être originaires du territoire. Il peut cependant être à double tranchant, car des bonnes relations avec les acteurs du territoire peuvent avoir lieu, mais il peut aussi y avoir des conflits qui risquent de freiner l'installation.
Ah! trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh. Were we? The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms opened wide and closed me inside. You took my lips, you took my love so tenderly.
The evening breeze erased the trees tenderly. Trembling trees embraced the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in the sight. Were we? Oh, the shores were kissed by the mist tenderly. Papa did in, I can't forget our two hearts met tenderly. Baba da da, your arms open wide and close me inside. You took my chops away from bops tenderly.
Alors Guillaume et Joséphine, donc suite à cette enquête que vous avez menée auprès de 11 éleveurs des garrigues récemment installés, quels sont les principaux résultats que vous pourriez nous donner de cette enquête ?
Moi, ce que je note de très important qu'on a relevé lors de nos enquêtes, c'est que y a une demande, donc des consommateurs, des habitants, il y a une demande, puisque tous les éleveurs qu'on a rencontrés, y en a aucun qui arrive à satisfaire la demande. Ils sont tous à un moment en rupture. Et donc voilà, ça c'est très important au regard des difficultés qui apparaissent. Donc sachant que à toutes les étapes de l'installation, que ça soit de la recherche des financements, de la recherche du foncier, à chaque étape, à ces étapes d'installation, il y a des difficultés, alors qu'il y a une demande. Donc pour moi, c'est ce qui ressort de plus important, c'est que il n'y a pas franchement de politique ou de structure qui aide ces installations hors cadre à s'installer, alors que économiquement et sur le territoire, il y a une demande qui est faite et l'offre derrière ne suit pas.
Moi, je vais partir plutôt sur un autre aspect que la commercialisation, plutôt bien en amont par rapport à la ressource. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a une ressource présente, une ressource herbacée et arbustive présente pour l'alimentation du troupeau, relativement abondante et diversifiée sur le territoire, mais que pour les éleveurs qui s'installent, ces surfaces à pâturer sont difficiles à acquérir et sont essentielles pour l'élevage.
J'ai vu passer la notion d'élevage fantôme. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus qu'est-ce que vous entendez par là ?
Quand on a évoqué ou mis ce terme sur les élevages, l'élevage fantôme, c'est pour qualifier ces élevages qui s'installent souvent complètement en dehors du système agricole, qui n'ont souvent pas de statut au départ, voire pas de siège d'exploitation. Mais ce sont des bergers qui arrivent avec une très forte motivation avec leurs bêtes, qui trouvent de l'herbe sur place, souvent par contrat oraux, et qui commencent à s'installer, à produire, à vendre, mais qui sont hors circuit et qui, de ce fait, ne peuvent pas avoir d'appui technique de la part des institutions.
Quelles sont les difficultés communes qui ont été rencontrées chez à peu près tous les éleveurs que vous avez enquêtés ?
Alors les difficultés qui reviennent à chaque fois chez tous les éleveurs, ça va être au niveau du foncier bâti et non bâti. Donc déjà l'acquisition des terres, donc pas forcément en propriété, mais ne serait-ce que l'obtention de contrats d'utilisation. Donc déjà cette partie-là, donc d'avoir des surfaces à pâturer. Et ensuite, au niveau du foncier bâti, donc une fois qu'on a les terres, il y a aussi les difficultés qui sont liées à l'absence d'une bergerie, donc qui rend les périodes notamment d'agnelage difficiles, et qui rend aussi, quand il y a des problèmes climatiques, il n'y a pas d'abri pour les bêtes. Et ensuite, au niveau de l'habitation de l'éleveur. Donc si l'éleveur n'est pas sur place, ça fait une grosse perte de temps et d'argent au niveau de l'essence pour les transports. Et puis aussi, juste beaucoup de risques à ne pas être à côté de ces animaux, donc notamment pendant les périodes d'agnelage, etc. Et aussi, juste pour les risques de vol, notamment. On a rencontré un agriculteur où la première année, il n'avait pas obtenu de permis de construire, donc il était obligé de vivre loin de son siège, peut-être même que 15 km, mais c'était suffisant pour qu'il ait beaucoup de pertes dues au vol de bêtes, mais aussi de matériel. Et puis, je pense que pour moi, c'est les deux grosses difficultés.
Oui, et puis globalement la précarité financière. En plus du foncier bâti et non bâti, ils vivent pas, ils roulent pas sur l'or quand même.
Et est-ce qu'au contraire des atouts, enfin des aides qu'ils ont pu avoir, est-ce qu'il y a un fil commun là-dessus?
Il va y avoir un soutien de la population locale, déjà, parce que on note que la commercialisation se fait pour la grande majorité des éleveurs en vente directe. Donc déjà, il y a une volonté des habitants proches de l'éleveur de consommer de la viande, de la nourriture de qualité. Donc déjà, le soutien de ces consommateurs-là permet à l'éleveur de continuer son activité. Et puis on note aussi des structures qui... que ce soit la chambre d'agriculture de l'Hérault, par exemple, parce que du coup, moi, j'ai réalisé les enquêtes sur le département de l'Hérault. Et chez tous les éleveurs qu'on a enquêtés, le chargé pastoral de la chambre d'agriculture, son nom est toujours revenu et il a vraiment très, très professionnel et il a beaucoup aidé. Ça, c'est son soutien, l'importance de son soutien est revenue assez régulièrement. Et puis après, on peut noter aussi toutes les associations agricoles comme Terre Vivante qui aident aussi au niveau du coup administratif. Surtout, ces élevages, ces installations qui n'ont pas de, comme disait Guillaume, comme c'est des installations fantômes, beaucoup, elles n'ont pas d'appui technique. Et du coup, il y a beaucoup de choses que les éleveurs ne savent pas forcément faire, surtout que beaucoup n'ont pas eu de formation agricole. Et donc, des associations comme Terre Vivante proposent du soutien du point de vue technique ou administratif ou à la recherche de foncier et toutes les difficultés que l'éleveur peut rencontrer.
Entre voisins, éleveurs aussi, on remarque qu'ils ne se tirent pas dans les pattes. Ils ont vraiment tendance à se soutenir. Ouais.
En fait, c'est des exploitants qui sont vraiment partis de rien. Ils arrivent sur le territoire avec leurs troupeaux et ils trouvent des terres comme ça en parlant avec les gens. C'est vraiment des accords oraux et ils arrivent, ils ont 20 hectares et ils se retrouvent avec des centaines au bout d'une année. Mais c'est vraiment, ils arrivent et ils n'ont pas grand-chose et ils arrivent à faire quelque chose avec rien.
Ce qui m'a étonné, moi, c'est que dans la totalité des cas qu'on a enquêté sur du côté de l'Hérault, c'est que c'est des éleveurs qui accompagnent les dynamiques naturelles, qui ont réussi à adapter leur méthode à leur territoire et non pas à l'inverse, comme on peut voir dans beaucoup d'autres systèmes, adapter le territoire à ces méthodes. Et c'est quelque chose qui m'a agréablement surpris et qui donne de l'espoir au vu des résultats qu'on a pu observer.
La motivation et la force, surtout mentale, des éleveurs, parce que c'est ce qui ressort le plus du point de vue humain, c'est que avec toutes ces difficultés dans tous les aspects de l'activité professionnelle qu'ils mènent, les éleveurs, ils restent tous... Bon, enfin, je dis pas que... Parce que les éleveurs qu'on a rencontrés, effectivement, ils sont encore en train de poursuivre leur activité, mais il y en a sans doute qui ont essayé de s'installer, qui ont abandonné. Mais en tout cas, pour tous les éleveurs que moi j'ai rencontrés, et je pense que c'est la majorité des éleveurs, c'est vraiment des personnes passionnées et qui mettent toute leur volonté dans ce qu'ils font. Et ça, c'est indispensable.
Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on a quelques troupeaux, pas assez nombreux, une production, des agneaux de qualité... En face des consommateurs qui sont demandeurs de produits locaux et de qualité, et qu'on n'arrive pas...
Il n'y a pas de soutien.
Il n'y a pas de soutien pour cette commercialisation-là. Voilà. Moi, c'est ce qui m'étonne le plus.
Ouais. C'est vrai que c'est surprenant.
Surprenant. Il y a tout est là sur le territoire et il y a quelque chose qui bloque. Et il faut trouver le blocage.
Oui, surtout que je pense que si on prend les acteurs du territoire et que on leur demande d'identifier eux par rapport à leur logique, etc., et leurs objectifs, quels sont pour eux les enjeux du territoire, je pense que tous les acteurs du territoire interrogés, je pense que leurs enjeux, que ce soit le maintien d'un paysage pour le tourisme, que ce soit le maintien d'un taux d'emploi assez élevé, que ce soit des enjeux écologiques ou économiques, je pense que tout le monde trouverait, pas toutes les réponses, mais au moins une partie des solutions et une partie des réponses en soutenant l'activité économique du pastoralisme dans les Garrigues.
Alors, ce soir, vous avez présenté, du coup, vos travaux devant presque la moitié des éleveurs enquêtés, plus quelques personnes extérieures. Comment ont-ils réagi à cette présentation?
Moi, j'étais agréablement surpris. Enfin, j'avais peur qu'ils prennent notre petite enquête avec beaucoup de distance et j'ai eu l'impression, au contraire, qu'ils se sentaient impliqués dans ce début de cette ébauche de travail en faveur du pastoralisme.
Oui, je pense que le fait que ce soit une démarche qui les intègre totalement, c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas avancer et parler pastoralisme sans... sans les éleveurs, quoi. C'est d'abord les premiers concernés.
Un grand merci pour cette belle enquête menée par Élie Chelmel, Guillaume Constant, Alexandre Malinge et Joséphine Renfeld de la licence professionnelle gestion agricole des espaces ruraux de Supagroflora. Et des remerciements également pour les 11 éleveurs qui ont été questionnés, soit Cyril Caillebeau, Fabien Littière, Adrien Le Chalier, Jean-Paul Bessière, Luc Catapano, Patrick Maillet, Jonathan Loton, Clément Le Boucher, Samuel Burnet, Rénald Vaubrun et Thomas Marcilly.